48 FM.
48 FM.
C'est les Sleep John au couloir en numéro 2. Allez, les Sleep. C'est parti pour les Sleep John.
De la performance de Jean-Baptiste Grange.
Je ne dis rien, Peter Marquet. Je ne dis rien.
La c'est France le moment, entière. C'est l'instant. Alex, la France entière.
Parker inside. Pretty play from Tony Parker.
La qualification pour la demi-finale de la Coupe du Monde au bout du soulier.
Alors je ne regarde pas.
Allez mon petit bonhomme.
Tu as dit apéro.
Allez Louis. Allez mon petit bonhomme.
Alors Arsenal va battre le PSG 3-0 et Tottenham va venir gagner à Monaco 1-0.
Et voilà, oups, pardon, je me suis trompé, les manettes m'ont échappé, c'était l'émission de la semaine dernière, désolé, bonjour à tous, bienvenue dans ce 64e Instant Sport avec nos chroniqueurs bien au chaud, bravo monsieur Laurent Julien, toujours aussi perspicace dans vos pronostics.
Oui, alors il faut reconnaître qu'il y a eu quelques surprises à ce match et donc je me suis fait avoir, voilà, c'est ça. Bonjour tout le monde.
Ça arrive. Par contre, notre journaliste sportif à Lausanne Nouvelle, Patrick Biancone, avait raison sur le pronostic de Monaco, avait vu un match nul entre Paris et Arsenal, mais sans avoir le résultat exact. Bravo Patrick, salut, tu passes en tête de notre classement des pronostiqueurs.
Écoute, bonjour à toutes et à tous, salut à toi, salut à tout le monde. Et je suis en grande forme en ce moment. C'est depuis qu'en fait, dans ce studio, je suis... placé à côté de notre maître pronostic, donc je pense que je récupère un peu de son fluide. C'est pour ça que ça explique.
Tout pris, d'ailleurs.
Voilà, ça explique momentanément ma position en tête de ce classement officieux, mais tellement important.
D'ailleurs, moi aussi, j'avais pronostiqué le match nul d'Arsenal et Paris et la victoire de Monaco, mais pas avec le bon résultat. Oui, donc du coup, ça compte pas.
Ouais, mais tu t'approches petit à petit.
Ah ouais,
c'est
ça
bien.
Va, ça va revenir.
Enfin, au c'est classement, bien. Je suis pas largué quand même. On a juste. Ouais. Bon, bref. Un point d'écart.
Un point d'écart, mais tu sais, ça peut. En fin de saison, c'est important. Hein. Ce point peut faire la différence. Hein. C'est bon, Aurélien, Pérol en basket s'inclinait contre Fabrique 65-58. Donc, j'imagine que tu as dû jouer.
Non, je n'ai pas joué.
Oh, quelle mauvaise langue.
Voilà, tu vois comme tu es. Non, j'ai pas joué avec l'équipe région. J'ai joué avec l'équipe départementale dimanche matin et on a gagné.
Eh ben écoute, c'est parfait ça.
Très bien, bon petit week-end.
Alors Christophe est bloqué aujourd'hui par une réunion, le salut, on le retrouvera lundi prochain normalement. Alors beaucoup de matchs n'ont pas eu lieu ce week-end, tout d'abord en rugby, le RCML qui devait jouer à Villeneuve-les-Maguelones et le match a été annulé à cause des intempéries. Il a beaucoup plu en bas.
C'est le seul match qui ne s'est pas joué d'ailleurs, tous les autres matchs de la poule ont eu lieu, dont en particulier le leader qui a une nouvelle fois gagné, il s'est imposé à Mende la semaine dernière. Et donc, ils ont une nouvelle fois gagné. Donc, je crois qu'ils en sont à 9 matchs, 9 victoires.
Et oui. Bon, mais en plus, c'était contre l'avant-dernier, Mende, c'est ça ? Ou le dernier, peut-être même ?
Non, l'avant-dernier. Si tu regardes le classement, donc une victoire, c'est 4 points sans bonus. Donc, si Mende pouvait s'imposer donc, à Villeneuve-les-Maguelones, tu deviendrais 3e. Donc, ça serait très intéressant à la fin des matchs aller. Pour la perspective, comme on l'a dit, des barrages. Donc troisième, tu devrais recevoir le 6e de la poule. Ça serait pas mal pour passer à demi-finale.
Ouais, c'est à suivre. On a des nouvelles du carton rouge reçu. Non, pas encore. Non. Hein, ça prend du temps, j'imagine. Le temps de recevoir le rapport, de décider, de se réunir en commission de discipline.
Commission de discipline, ouais, c'est ça.
Donc on ne sait pas. Par contre, ils avaient eu un blessé aussi. Donc ça peut être intéressant d'avoir le match reporté pour se blesser. On verra ça. Le MGC Handball ne jouait pas non plus ce week-end. Prochain match ce samedi face à Valence, la réserve de Pro 2, actuellement 3e du championnat. Il faut noter qu'à l'occasion de ce match, une partie de la buvette et de la tombola sera reversée au Téléthon. Donc encore bravo à ce club toujours aussi sympa du MGC. Surtout une partie de la buvette, on sait que Laurent va avoir le match, donc ça risque d'aider les enfants qui ont des problèmes.
Si ça peut apporter, oui bien sûr, ouais, pas de problème.
Si t'as pas trop donné ce week-end. Parce que tu m'as l'air un peu fatigué quand même aujourd'hui.
Oui, c'est vrai, je reconnais.
Bon.
Fatigué.
Alors, du côté du handball Nord-Lozère, en Coupe du Cantal...
Tu as dit, à la buvette du MGC, on peut boire aussi des boissons non alcoolisées.
Oui, mais ça t'intéresse pas, toi.
Aujourd'hui, ça m'intéresserait.
Ah. Mais le samedi soir, peut-être un peu moins. Donc, je disais, handball Nord-Lozère, Coupe du Cantal, les garçons se déplaçaient à Murat et reviennent avec une victoire 35-23 face à une équipe qui évolue au niveau au-dessus. Les filles, par contre, s'inclinent 39-30 face à Saint-Flour.
Voilà. Qui joue au-dessus, par contre.
Qui joue au-dessus également. Ah non, elle joue au-dessus que de Saint-Flour.
Non, Saint-Flour joue au-dessus.
Oui, comme Murat.
Voilà.
Bon, mais une victoire, une défaite, voilà. En volée, allez, volée élite, le MVL bat Amiens au Pioncourt 3-7-1, 25-23, 22-25, 25-19, 25-17 au classement, capitaine.
Alors le classement, premier Avignon avec 22 points, deuxième Mende 20 points, troisième Fréjus 17 points et quatrième Alluin 13 points.
Alors vous l'avez compris, grâce à ce classement, Avignon n'a pas perdu, victoire à Bélin 3-7 à rien. Compliqué cette équipe d'Avignon, hein. Le MVL n'a pas le droit à faire des faux pas cette saison finalement.
Avignon a une équipe vraiment impressionnante avec des joueurs expérimentés qui ont connu le niveau professionnel, avec en particulier la Ligue 1. On parle souvent du passeur Ricardo Martinez qui a fait les beaux jours d'Ajaccio. Et puis ce néo-calédonien qui marque quasiment 20 points à chaque match. Donc on attend avec impatience ce match retour, Mende contre Avignon. Alors j'ai déjà coché la date, hein, c'est le 4 février, un samedi soir. Ça sera vraiment le gros match à ne pas rater, puisqu'on sait que les points sont conservés pour la deuxième phase entre les équipes qui passent en play-off. Donc on a bien compris qu'à la fois Avignon et à la fois Mende seront en play-off. Donc l'importance sera maximale pour ce match contre Avignon.
Tout dépend de l'objectif du club aussi. Est-ce que l'objectif du club est de monter en division supérieure ou non ?
C'est vrai qu'on peut...
Le but, c'est déjà d'être en play-off pour être sûr de ne pas descendre deux saisons.
Exactement.
Après, si l'équipe n'est pas armée financièrement, je parle, pour jouer une division au-dessus, bon, ce match, ça sera plutôt un match de gala, je dirais.
Non, mais c'est vrai que tu fais bien de parler de cet aspect-là. Les dirigeants sont totalement confiants de la situation financière du club, bon, qui est certes saine, mais on ne roule pas sur l'or au niveau du volet Mende. Donc, ils ont chiffré... les besoins en cas d'accession il faudrait augmenter le budget de 150 000 euros. Donc c'est pas une paille. Il suffit un peu d'être dans les associations, de voir un peu les budgets, la difficulté aussi bien maintenant au niveau des collectivités qu'au niveau des sponsors privés. Donc là, il te faudrait 150 000 euros de
un
plus.
Qui me paraît complètement voilà.
C'est pas une paille. Donc les dirigeants sont bien conscients de tout ça. Et puis après, ben, y a le côté des joueurs et puis surtout du coach, Constant. Je pense que Constant a vraiment envie de marquer l'histoire du sport, je dirais lozérien, Mendois d'abord et puis lozérien dans son ensemble. Je pense que Constant a envie d'être, de conduire la première équipe qui, sportivement, accède au niveau professionnel. Alors après, il y aura tout un travail en coulisses à voir qui s'annonce vraiment très ardu. Tu fais bien de le souligner, Laurent. Mais bon, pour lui, c'est pas son problème. C'est vrai qu'il a raison, lui. Il s'attelle au niveau sportif. Mais je pense que dans un coin de sa tête, il veut marquer cette histoire et être le premier coach à amener une équipe au niveau professionnel.
Donc, ami Mendois, on vous prévient, les impôts vont augmenter l'année prochaine. Merci de contribuer à l'accession.
Non, mais sans trahir des secrets, il est bien évident que les dirigeants... ne manque pas d'en parler aux élus, hein. Alors bien sûr au maire Laurent Suau, mais aussi aux différents fidèle conseillers. D'ailleurs c'est son fils joue dans les équipes de jeunes du MVR, le fils de Laurent Suau. Donc il fait parfois des déplacements lointains pour amener les copains de son fils et son fils et regarder justement son gamin jouer parfois dans des déplacements lointains. Donc il connaît tout ça, il a des contacts. Bon, je sais qu'il commence déjà à y réfléchir, hein. Lui aussi il sait que ça va être vraiment compliqué à faire. Bon, voilà. Après, comment sortir d'une telle situation, à voir, ça va être chaud.
Oui, après tu as une exposition hautement différente par rapport à celle d'élite, donc j'imagine que les sponsors privés tu peux passer c'est quoi, c'est deuxième division du coup.
Deuxième division, ouais, tout à fait.
Ouais, c'est Pro B, ça s'appelle.
Ouais, c'est Ligue B, bon.
C'est Ligue B.
Ça s'appelle Ligue B maintenant. C'est au niveau des déplacements, c'est pas ça qui sera le plus lointain, mais après il y a un cahier des charges qui est énorme, c'est-à-dire que tous tes joueurs, il faut que tu leur fasses des contrats professionnels. Donc chose qu'actuellement tu n'es pas obligé de faire. Donc qui dit contrat professionnel, ça implique tout un tas de charges, bien évidemment. Et puis il y a des minimums, si je peux dire, syndicaux, mais ça existe dans chaque sport. Et donc et puis aussi après au niveau sportif, si tu veux jouer un rôle intéressant dans cette Ligue B, il va falloir que tu passes à l'attaque, hein, au niveau du recrutement. Et on sait qu'au volley, il y a énormément de joueurs qui viennent de pays étrangers. Et donc, tu seras obligé là aussi de recruter quelques joueurs étrangers. Pas forcément, il y a aussi de jeunes Français. Mais bon, voilà, c'est une alchimie à trouver. En tout cas, il va te falloir au minimum 150 000 euros.
Tu recrutes à Avignon, sinon ?
Tu peux recruter à Avignon. C'est vrai que ce néo-calédonien a largement le niveau pour jouer en Ligue B sans problème.
On pensait à lui. Aurélien ?
C'est vrai que quand on voit les résultats sportifs, même si effectivement... l'accession est pas encore jouée et loin de là, parce que à mon avis ça va être quand même très difficile, mais c'est quand même des considérations qu'il faut prendre en compte dès maintenant, parce que c'est pas quelque chose qui se fait juste avant la saison. C'est vraiment des choses auxquelles il faut déjà penser, et je pense que les dirigeants ils pensent sérieusement. Ouais.
Non mais il faut pas s'enflammer, tu as raison. Bon, on a bien compris que dans cette poule Avignon et Mende sont au-dessus de toutes les autres équipes, mais bon, faut pas oublier que tu vas avoir aussi quatre autres équipes de l'autre poule. Bon, tu vas les affronter en deuxième phase, et donc tu n'es pas sûr aussi de finir après dans les deux premiers, puisque on le sait, au bout de la deuxième phase, c'est les deux premiers qui accéderont. Et encore, il faut accéder, mais il faut peut-être un budget. C'est le gendarme financier de la Ligue de volleyball qui décidera si tu peux accéder en Ligue B ou pas, en particulier suivant les critères financiers.
Et du coup, en mettant le côté financier de côté, est-ce que là, au niveau de la salle Piancourt est aux normes pour jouer au niveau professionnel ?
Bonne question. J'en ai parlé aux dirigeants. Alors, d'après eux, il va falloir faire quelques aménagements, mais a priori, tu peux au moins avoir une dérogation. Donc, ils sont pas inquiets au niveau du gymnase. C'est vrai, tu as raison. Si tu n'avais pas de gymnase à Mende, aucun qui soit homologué, alors là, ça serait vraiment la catastrophe. Tu serais obligé de jouer à l'extérieur du département. C'est totalement inenvisageable.
Alors, beaucoup de Camerounais au Piancourt le week-end dernier.
Hein ? Contre Amiens,
ouais. Il y avait 3 joueurs du Cameroun, il me semble, dans l'équipe d'Amiens, ou 4. Voilà, c'était juste une petite aparté. Les prénationales n'ont pas joué, ça a été annulé aussi. Alors là, je ne sais pas pourquoi. Ils devaient jouer contre Montpellier et Croix d'Argent, juste devant au classement. Ça a été annulé. Les filles, par contre. Voilà. Gymnase impraticable.
Gymnase avec des fuites au niveau de la toiture.
C'est possible. En prénationales, les filles s'inclinent à l'ASBA Montpellier 3-7-1. Classement, capitaine.
Alors, premier, Latte Montpellier, 22 points. Deuxième, Béziers, 20 points. Troisième, Nîmes, 15 points. Quatrième, Béziers-Maraussan, 14. Et cinquième, donc Mende, 10 points, mais avec un match à moins.
Voilà, milieu de classement pour une montée avec un effectif reconstitué. Très bon début de saison. Pour les filles d'Amal, Amal va mieux ou pas ? T'as des nouvelles, Patrick ?
Pas récemment, mais bon, je pense quand même que ça rentre... Un peu dans l'ordre, mais bon, c'est vrai qu'elle a été quand même pas mal secouée par ce coup du sort. Et c'est vrai que on peut parfois en rigoler, croire que c'est un geste anodin. C'est vrai que quand on voit à l'échauffement aussi bien les joueurs, les dirigeants être très attentifs dès qu'ils entendent un ballon, ben là je peux vous dire qu'on comprend mieux pourquoi ils sont vraiment très attentifs, parce que ça peut vraiment mettre KO et KO un certain temps.
Mais j'espère qu'elle a plus mal. A mal.
Oh là là, ça y a des remontées.
Il
a des remontées. T'étais pas avec Luc Respon au moins ce week-end, parce que il y a des vidéos qui tournent de Luc ce week-end. C'est pas beau à voir.
Ah, non.
On le salue s'il nous écoute d'ailleurs. En football, l'AFL perd à domicile 1-0 contre Bourgoin-Jallieu, but encaissé à la 84e. Prochain déplacement à Cabourg samedi prochain. Allez capitaine, tu es lancé sur les classements.
Allez, sûrement lancé donc.
Ouais, on y va.
Le classement du foot, premier Saint-Priest avec 22 points, deuxième Bastia avec 20 points, troisième Louhans-Cuiseaux 19 points, quatrième Bourgoin-Jallieu du coup qui remonte à la quatrième place avec 19 points également. Et puis on descend un petit peu le classement pour retrouver Mende à la 9e place, 11 points.
Et un match de moins.
Et un match de moins. Mais je ne l'ai pas marqué parce qu'il y a plein de clubs qui ont des matchs en moins.
Ah,
c'est un peu compliqué. Donc, non, il n'y a pas que nous.
Il y a Cournon qui n'a pas joué ce week-end. Le terrain était impraticable.
Et Cabourg, bien entendu, qui est arrivé en retard.
Quelques matchs
dans
de retard.
Qu'est-ce qu'on peut dire sur ce match, Patrick?
Bon, d'après les échos que j'ai eus, un match compliqué. Où on n'a pas senti vraiment l'AFL en mesure de bousculer une solide équipe de Bourgoin. Hein. Alors on dit solide parce qu'on passe au rugby, hein, capitaine basketteur, mais rugbyman bien évidemment de cœur. On sait que Bourgoin a été un des plus grands clubs français, en particulier un club formateur, énorme club formateur. Bon, on connaît bien sûr Chabal, mais il n'y a pas que Chabal. Hein.
Nalé aussi, parler, qui voilà, est sorti de Bourgoin.
Lionel Nalé, et puis bon, bien d'autres.
Et d'ailleurs, qui maintenant est un pauvre dernier de Pro D2.
Voilà.
Bourgoin-Jallieu.
Tu fais bien de le dire. Voilà. Un club qui va.
Ils ont mis tout l'argent dans le foot.
Un club qui va certainement disparaître au niveau rugby du niveau professionnel. Et donc, c'est vrai qu'on n'est pas habitué à voir Bourgoin-Jallieu au niveau football. Et donc.
Ils avaient un beau maillot ciel-grenat aussi, du coup, les footballeurs, j'ai vu.
Tout à fait.
Et donc,
une équipe solide qui aurait pu marquer bien avant sur deux ou trois occasions. Yohann Musi a fait un ou deux très gros arrêts. Et puis, finalement, très peu d'occasions du côté de l'AFL. Donc, une nouvelle défaite à domicile qui nous maintient fermement dans cette deuxième partie de tableau. Et bon, tu me posais la question la semaine dernière, mais bon, je reste sur ma position. C'est un début de saison correct, mais pour moi, correct moins.
Ok, Laurent.
J'ai pas eu d'écho, donc j'ai vu la vidéo la vidéo de Coco sur le site de l'AFL. Donc c'est vrai qu'on peut voir une paire d'occasions intéressantes aussi côté de l'AFL. Bon, il n'y a pas eu de réussite sur ce match. Ben, il faut espérer que le voyage, le très long voyage de ce week-end va permettre aux joueurs de se remobiliser. Faut dire quand même que là on perd les deux derniers matchs contre deux grosses équipes du championnat, donc c'est pas non plus dramatique quand on perd contre le premier et le quatrième.
Enfin, Bourgoin, si tu les gagnes, tu reviens à 1.2, ils sont plus quatrième.
Ouais, mais
si tu gagnes ce match,
ils étaient quatrième avant le match, donc c'est quand même une grosse équipe du championnat, quoi.
Aurélien.
C'est quand même une grosse équipe, on est d'accord. Par contre, c'est encore un petit peu rageant de prendre un but à la 84e. On en parlait la semaine dernière qu'on perdait des points un petit peu à droite à gauche qui pouvaient compter à la fin de saison. C'est vrai que c'est dommage, même moi aussi j'ai regardé la vidéo. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'occasions du côté de Bourgoin. Il y a encore le goal de Mende qui fait des arrêts, qui fait, je crois,
un moment. Il est vraiment, après un début de saison compliqué, on l'avait souligné.
Ouais.
Et en plus, le coach n'avait pas hésité à mettre le remplaçant dans les buts, là, Jürgen Giraud, qui jouait en DH à Argelès l'année dernière. Donc il avait fait quelques matchs en équipe Fagnon, et puis après Yohann Musi est revenu, et donc là on peut dire qu'il revient vraiment en très grande forme, et ça fait 3-4 matchs vraiment comme tu le dis, Aurélien, des arrêts déterminants et en plus vraiment splendide. Ouais, tout à fait.
Ouais, donc effectivement c'est un petit peu dommage de perdre ces points, quoi, contre ces équipes là. J'espère que ça comptera pas en fin de saison quand on fera les calculs.
Non, mais je suis absolument pas inquiet au niveau du maintien, puisque on le sait, on le répète à longueur d'émission, c'est une année particulière de transition, puisque la saison prochaine, d'ailleurs, ça a été voté, on peut en parler. Hein, il y a eu l'assemblée générale des deux ligues, donc ligue Midi-Pyrénées et ligue Languedoc-Roussillon. Donc la fusion a été adoptée de chaque côté. Donc à partir du 1er janvier, il n'y aura plus qu'une ligue, une seule ligue, la ligue Occitanie. Et donc l'année prochaine, il y aura une seule poule de CFA2, mais qu'avec des clubs de ce secteur Occitanie. Et donc, ça ne sera plus géré par la fédération, ça sera géré directement par la Ligue. Il y aura 13 poules de CFA2 dans toute la France et qui seront gérées par les 13 ligues du football. Donc, ça sera plus géré par la fédération.
Comment tu fais pour avoir une seule poule de CFA2 sur toute la grande région? Parce que là, tu as 14 clubs, il n'y en a qu'un qui descend, on avait dit.
Oui.
Donc, il y a combien de clubs en Midi-Pyrénées à l'heure actuelle?
Eh ben, il n'y en a pas tant que ça. Il y a Castagné, et après, il faut voir les descentes. En CFA, il y a beaucoup, beaucoup de clubs de la région qui ne sont pas bien. Il y a le 7 qui est dernier. Il y a la réserve de Montpellier qui est avant-dernier. Il y a Paulin qui est pas relégable, mais qui est juste au-dessus de la relégation. Je pense que tous ces clubs vont être reversés en Ligue Occitanie. Si tu arrives à 14 avec tous ces clubs, ça fera 14. Et puis s'il en manque, tu feras monter bien évidemment les DH, en particulier Narbonne qui est toujours premier, qui espère enfin accéder au CFA2. Et puis tu auras bien sûr le premier de la Ligue Méditerranée qui devrait monter. Et donc il va falloir que tu fasses 14. Alors parce qu'il y aura des dérogations, si tu auras 15 à 16.
T'es obligé d'être à 14, c'est ce que j'allais te dire. Tu peux pas imaginer un championnat
dans
le club.
Dans les règlements, c'est marqué qu'il y aura 13 poules de 14. Alors après, comme on vient de dire, si tu prends tous les clubs qui sont déjà en CFA2, si tu rajoutes ceux qui sont en CFA qui vont descendre, et si tu es déjà à 14, je vois pas comment tu peux interdire le premier de DH du Languedoc et le premier DH de Midi-Pyrénées de monter.
Non, donc, mais tu peux pas dire, on change, il y a deux clubs ou trois qui vont descendre finalement au lieu qu'un seul, c'est pas possible ça?
Si tu finis pas dernier ou au pire avant-dernier, je vois pas comment ils peuvent te rétrograder en DH. C'est impossible.
D'accord.
À mon avis, c'est impossible.
Donc c'est possible que les deux derniers descendent quand même. Ouais. Bon, enfin, on est largement devant le dernier et l'avant-dernier qui sont à 5 points.
Je suis pas inquiet à ce niveau-là.
Et si tu gagnes ton match en retard, t'as 14 points, t'es 7e, t'es pile au milieu du classement. Pour une montée, moi je persiste à dire que peut-être que c'est la place demande d'être au milieu du classement de cette poule de CFA, de CFA2, qu'on voit les différences entre CFA2 et le championnat de l'an dernier.
Il y a un écart. Comme Pierre Tessier le disait la semaine dernière, il y a un écart. On l'avait peut-être pas mesuré aussi grand avant le début de la saison. Après, Pierre l'a dit, ils ont l'ambition de jouer dans cette première partie de tableau. C'est vrai que on pensait que la place de l'AFL c'était dans les 5 premiers. Bon, ça, c'est pas perdu, mais ça paraît un peu compliqué. Il va falloir encaisser des matchs. Et puis, comme tu dis, il y a ce déplacement samedi. Alors, c'est dans le Calvados. Hein. Ça joue pas à Cabourg, ça joue à Dives-sur-Mer. Bon, c'est un peu un Calvados. Là aussi, c'est totalement dans l'inconnu. Bon, de toute façon, il faut en profiter parce que l'année prochaine, ça sera pas. Tu es sûr que tu n'iras pas en Normandie?
Oui. C'est vrai que là, il y a deux matchs à l'extérieur qui se profilent. Donc, le week-end prochain à Dives. Donc, Dives qui est 11e avec 6 points, ouais. Qui n'a qu'une victoire, il me semble, depuis le début de la saison.
Oui, ils n'ont pas beaucoup de matchs. Hein. Enfin, ils commencent à rattraper, mais ils ont beaucoup de matchs en retard.
Ils commencent à rattraper, ouais. Donc, pourquoi pas faire un coup là-bas, ouais. Même si c'est vrai que là, le déplacement va peut-être peser sur les gens, mais pour aller jouer là-haut. Et puis après, le week-end d'après, il me semble qu'ils se déplacent à Aurillac aussi, qui est une équipe juste devant Mende, qui est accessible aussi, donc pourquoi pas faire deux coups à l'extérieur, ça permettrait de remonter un petit peu au classement.
D'ailleurs, je crois que Dives vient de faire match nul contre Aurillac, un partout ce samedi.
Je vais te dire ça, absolument, à domicile, un partout, ouais.
Voilà.
Ok, et si un des joueurs peut nous ramener du Calva du prochain déplacement, on le prend avec plaisir.
On l'invite, on l'invite.
Le prochain qui ramène du Calva, on l'invite dans l'émission. Tu mélanges pas avec Laurent Génal, Calva, Aurélien?
Non. Et pourquoi le prochain déplacement à Bourgogne-Jallieu, par contre, ils peuvent ramener de la chartreuse aussi.
Voilà, qu'on peut mélanger avec Laurent Génal, par contre. C'est ça. Voilà, il m'apprend des cocktails avant les émissions.
Il est bon.
Aurillac de la gentiane.
Aussi.
Mmh. Oui, non, vous connaissez pas la gentiane.
De la Vèze.
Ça sera c'est la même chose.
Oui, c'est pareil.
On pourra,
bien sûr qu'on
pourra goûter les spécialités locales. C'est une bonne idée, ça.
Ce serait bon, faudrait qu'on fasse le tour de CFA2 des alcools français. Mmh. C'est pas mal ça, bonne idée Laurent. Mmh. Allez, les autres résultats du week-end, la qualification de l'FL3 en Coupe d'Alu après sa victoire 4-1 contre Margeride, défaite des féminines de l'entente Cœur-Lozère 0-1 sur le terrain de Saint-Aunès en DHR, victoire des U19 en championnat à honneur contre Saint-Christophe-les-Alès sur le score sans appel, 2-6-2 en honneur régional, match nul de Marvejol à Uchaud, 0 partout, Marvejol qui du coup est installé en milieu de tableau, 7e avec 16 points, Payuzès premier avec 26 et Metz dernier avec 12 points. Donc là c'est pareil, hein, Patrick, il y a beaucoup d'équipes qui ont des matchs en retard, oui. Des matchs en plus.
Marvejol d'ailleurs a un match en retard.
C'est compliqué de se faire un avis.
Un bon 0-0 parce que au classement, Uchaud c'est un candidat pour l'accession à la DH. Donc tu as un déplacement, tu ramènes un 0-0 et puis tu aurais même pu espérer mieux puisque Marvejol a raté un penalty. Raté un penalty, c'est le gardien qui a détourné le tir de Marvejol.
Du coup, la refonte de CFA2, ça peut engendrer des montées aussi de DHR à DH.
Ouais.
Donc ça serait intéressant que Marvejol, s'il souhaite monter. Essayer de se positionner comme l'année dernière dans les trois premiers. Quoi. Peut-être qu'il y a un coup à jouer.
Et pour l'Auvergne, c'est pareil, du coup ?
Oui. Tu auras une poule de CFA2 qui concernera la Ligue Auvergne et la Ligue Rhône-Alpes, qui, elles aussi, viennent de fusionner. Là, les ligues n'avaient pas le choix, puisque c'était imposé par le ministère. Donc, le ministère avait été très clair avec la Fédération française de football. Donc, il fallait que les ligues s'alignent au niveau des régions, donc il n'y avait pas le choix, hein, donc tu as été obligé de fusionner, les ligues ont été obligées de fusionner.
Alors 13 poules de CFA2, combien de CFA ? 13 aussi ?
Non, ça, par contre de CFA ça ne bouge pas.
Ça bouge pas.
Donc tu restes à 4 poules de CFA.
D'accord, ok. Le NL perd à Lambe 3-1 avec un but de Miloudi à la 10e, le NL qui est avant-dernier du classement mais avec 2 matchs en moins, voilà. 11 points, Vichy dernier 8 points, Iser devant 13 points. Le problème, c'est qu'après le 11e, il est à 20 points. Donc il y a déjà là 9 points d'écart avec 2 matchs en moins. Ça se complique. Enfin, à noter en ping-pong, la montée historique en National 1 lors du deuxième tour de Critérium National 2 pour Marion Laurent, licenciée à l'éveil Mandois tennis de table et pensionnaire du col. Voilà, on n'en parle pas souvent, mais on va en parler parce qu'on en a parlé. Hein, Laurent, toi qui aimes bien le ping-pong.
Oui, c'est vrai, j'aime bien le ping-pong. Et bravo à elle, en tout cas, pour cette accession.
Allez,
au club, d'ailleurs.
S'ils étaient là, ils nous mettraient un petit coup dans les oreilles. Parce que c'est
pas tennis de table.
Voilà, exactement. Le ping-pong, c'est nous quand on est là, après un barbecue, avec une petite canette à la main. Et donc là, oui, nous, on fait du ping-pong. Mais bon, eux, c'est du tennis de table.
Ouais, parce qu'ils n'ont pas le droit à l'alcool jaune et blanc, hein, pendant qu'ils jouent. Allez, pause musicale. On revient avec une grosse actualité nationale, internationale à venir après une chanson de Blur.
Cause you are boys who like boys to be girls.
Allez, voilà pour le groupe anglais Blur, peut-être de Manchester, il me semble, ce groupe. Ou de Londres, je sais pas bien. Allez, on a pas mal d'infos nationales, tout d'abord, ou de Liverpool, peut-être. D'abord, Rosberg, champion du monde de Formule 1. Donc ça, on en avait parlé il y a deux semaines. Il fallait qu'il termine dans les trois premiers, je crois. Hein. Il a terminé second derrière Hamilton. Donc voilà.
Je sais pas si vous avez vu l'attitude d'Hamilton.
Alors, j'en ai entendu parler.
Non, mais après... Bon, c'est compliqué de, c'est compliqué de le juger parce que non seulement il fallait qu'il gagne, mais pour être champion, il fallait qu'il y ait d'autres concurrents entre lui et Rosberg. Et donc, à un moment donné de la course, il prend un avantage énorme. Et donc, il se rend compte que ça lui sert à rien parce qu'il ne sera pas champion. Donc, volontairement, il ralentit. Et donc, du coup, Rosberg revient juste derrière lui. Donc, Rosberg, bien sûr, ne va pas prendre le risque de doubler parce qu'il se dit, s'il me percute et que j'abandonne, ben, là, je suis plus champion du monde. Donc, Rosberg ne le double pas. Mais ça a permis à ceux qui étaient derrière Rosberg de revenir aussi. Et donc, dans l'esprit d'Hamilton, c'était espérer que ceux qui sont derrière Rosberg vont le doubler pour que lui soit champion du monde. Donc, ça a provoqué encore un séisme dans son équipe. Les directeurs de course qui étaient fous, on lui disait des consignes, accélère. Et ben, il n'a jamais accéléré. Enfin, il en a fait qu'à sa tête. Donc, ça a provoqué encore une crise dans cette équipe Mercedes.
Et ils vont le garder, du coup,
parce
tu crois?
Ils sont dans la même équipe.
Ils sont coéquipiers. Ouais, à mon avis, ils vont le garder parce que c'est, à mon avis, c'est les deux meilleurs pilotes et de loin du plateau. Donc, en plus, Hamilton, il est vachement bling-bling. Donc, c'est vrai que c'est, au niveau de la com, c'est un phénomène.
Il fait vendre des casques.
Exactement. Et puis, bon, il fait vendre surtout des Mercedes aussi. Et donc, je pense qu'ils vont le garder. Ouais.
En Coupe Davis, l'Argentine, enfin sacrée en Croatie.
Et oui, et Del Potro a donné sa raquette à Maradona. Maradona qui avait fait des passements en Croatie, vraiment un supporter le plus déjanté de toute la tribune. Il sautait de partout. Un peu chagriné par le décès de Fidel Castro quand même, puisqu'il était très copain avec Fidel. Mais bon, un vrai fan, c'était bon. On le voit des fois, il est dans les tribunes, dans les stades.
Il va voir le rugby tennis, aussi, on l'avait
voilà,
vu.
Il vient au rugby, il va voir bien son club, je crois que c'est Boca Junior, son club.
Ah oui.
Et donc aussi le tennis. Donc on sait qu'il est chaud quand les matchs ont lieu en Argentine, mais même là à l'extérieur, il a mis une ambiance de folie. C'était tous les regards étaient tournés presque plus sur lui que sur le terrain. Bon, non, je rigole un peu parce qu'il y a eu un match extraordinaire entre Del Potro et Cilic.
Ah ouais, Del Potro qui nous fait une remontée fantastique, qui est mené 2-7 à 0 et qui va remporter le match 3-7 à 2 pour apporter le point de légalisation à l'Argentine.
Donc, toi, t'attendais le match de NBA hier soir sur BeIN, non?
Pas du tout, non.
Ah, d'accord.
Pourquoi?
Parce qu'il montrait la Coupe Davis et justement, ça a été retardé. Enfin bref.
Non, donc, un match assez improbable.
Après 4 finales perdues, l'Argentine a enfin gagné. Et donc, quand on voit la composition de l'équipe argentine et quand on voit, nous, en France, les joueurs qu'on a, c'est vrai que ça fait quand même les boules qu'on n'ait encore jamais réussi à remporter la Coupe avec cette génération que nous avons, nous.
Il leur manque peut-être un peu de Maradona derrière pour les booster aussi.
Ouais, Noah essaye, mais...
Il est détendu plus qu'autre chose, donc c'est pas...
Mais non, c'est pas la faute mec. De Noah.
Après, c'est peut-être une priorité aussi dans leur carrière. J'ai pas l'impression que la Coupe Davis soit vraiment la priorité des joueurs français dans leur carrière. Donc,
non, mais t'as pas de joueurs de la qualité Del Potro.
Hein, tout simplement. C'est le problème de nos Français. Ils sont bons, ils savent envoyer des balles, mais quand il faut se sortir les doigts, ben, ils savent pas le faire.
D'où ?
Hein ?
Sortir les doigts d'où ?
Non, mais c'est vrai que Del Potro, il a le feu sacré en lui toutes les fois qu'il joue pour l'Argentine. Et ça fait
mais les Argentins, en général, hein, ils sont vraiment nationalistes. Ils aiment leur pays, ils aiment le représenter. On se rappelle de ces images au rugby où les joueurs pleuraient. Ça se voit pas dans,
ça,
dans toutes les nations.
Au foot, tu t'es trompé.
Quand ils ont perdu. Ouais.
Non, les images que tu vois, c'est.
Non,
il y a eu un moment dans ce match Del Potro contre Cilic au 4e set. Et c'est Del Potro qui l'a raconté à la fin du match. Il y a un service surpuissant du Croate. Et le service est faux. Et donc, Del Potro, dans un réflexe, il capte le ballon. Il capte pas le ballon, mais la balle avec sa main. Et au lieu de laisser passer le service. Et donc, le service est tellement puissant que ça lui a pété le petit doigt de la main gauche. Et donc, il a terminé le match avec un doigt cassé.
Il est gaucher ?
Ouais, mais au revers, il joue des deux mains.
Aïe, 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 aïe. Un peu comme toi, Aurélien.
Donc il a été héroïque, même avec un doigt cassé, il a réussi à gagner ce match.
Et oui. En rugby, défaite de justesse de la France contre la Nouvelle-Zélande, 24 à 19. Encourageant ou rageant ?
Les deux.
Les deux, hein.
Mais bon, c'est vrai qu'on a vu un superbe match. Hein. Mmh. Moi, je me suis régalé. Ça fait un moment qu'on n'a pas vu une équipe de France jouer autant. Alors après, c'est vrai qu'il y a des erreurs grossières, en particulier sur le premier essai, ou sur un coup de pied, on se fait avoir dans les airs, puis après, surtout l'interception, alors que tu dois marquer, et puis finalement, tu te prends l'essai. Mais bon, on se régale, et franchement, j'ai dit chapeau Noves, parce que un an, il a quand même réussi à quand même changer l'état d'esprit de cette équipe.
Moi, j'y connais rien au rugby, mais est-ce qu'on peut pas faire jouer plutôt dans cette équipe de France les Barbariens ? Parce que j'ai regardé 10 minutes des Barbariens, ça joue, quoi.
Tu t'es bourré, laisse tomber.
Non, même pas. Ça joue bien, je trouve.
Ils ont battu l'Australie, mais bon, les remplaçants de l'Australie, quand même, il faut le préciser.
Mais c'est qui compose cette équipe des Barbariens, là ? C'est quoi, en fait ?
C'est un comité. Il y a Jean-Pierre Henry, il y a Blanco, des anciens, quoi.
C'est des Français ?
Oui.
Oui, les Barbariens, en fait, c'est une équipe qui est composée d'anciens internationaux qui sont un petit peu en fin de carrière et de jeunes, justement, qui sont à la porte de l'équipe de France. Et donc, ça leur permet de faire des matchs internationaux un petit peu pour s'aguerrir. Ouais. Et voilà, c'est un état d'esprit. Voilà.
Bon, ce qui est moins sympa, c'est l'équipement, quoi. Par contre, les chaussettes...
Tu joues avec les chaussettes de ton club, c'est la tradition. Tu gardes tes chaussettes.
Un pied gauche d'un club et le pied droit d'un autre club, alors parce qu'il était...
Alors, par contre, on dit bravo Noves, monsieur Biancon. Moi, j'ai une question à poser. Est-ce qu'on n'a pas encore un problème de charnière ? Ça fait combien d'années qu'on la cherche, cette charnière ? On la trouve toujours pas ?
Bonne question, c'est vrai. Il y a d'ailleurs trois ouvreurs. Tu as fait trois matchs en novembre, tu as mis trois ouvreurs différents. Donc, c'est vrai qu'on n'a pas encore retrouvé cette vraie charnière. Après, c'est dur pour Camille Lopez qui a le drop de la gagne contre l'Australie, il le rate, puis après il fait cette passe interceptée et ça te plombe le match contre les All Blacks.
Il fait une belle passe décisive au niveau des stats, c'est pas mal. Ouais.
Mais bon, tu peux pas dire qu'il fait un mauvais match. À voir. C'est vrai que on n'a pas ce chef d'orchestre. On a vu le 10 australien qui était vraiment magistral, et puis il y a ce 10 néo-zélandais qui était aussi magistral. Donc nous, il nous manque, c'est vrai, ce joueur décisif dans notre équipe.
Il joue dans quel club ? Excusez-moi, Roland. Dans quel club il joue, ce Lopez ?
À Clermont.
À Clermont, d'accord.
Non, c'est vrai que la charnière, ça a toujours été un gros problème en France. Ouais. Noves a repris l'équipe, il a insufflé un nouvel état d'esprit, un esprit de combat et de jeu. Ils envoient du jeu au moins, quoi. Ça fait plaisir. Après 4 ans de Saint-André, on était un peu sauré de ce style de jeu. On voit des franchissements de ligne, des passes après contact. Enfin, je pense qu'il a trouvé, une bonne formule. Il a trouvé sa troisième ligne, je pense. Ouais. J'espère, parce que vraiment.
Il y a eu ce joueur de La Rochelle que personne ne connaît, là.
Gourdon,
qui est vraiment, vraiment magistral.
Gourdon, Olivon, qui a été assez énorme aussi.
Ouais.
Donc, effectivement, il reste le problème de la charnière qui a toujours été un petit peu un casse-tête pour les sélectionneurs. Donc, j'espère qu'il va faire un petit peu comme il a fait sur les autres postes, qu'il va oser. Oser faire jouer des jeunes et oser un petit peu amener du sang neuf, parce que effectivement quand on voit l'entrée de Baptiste Serin qui fait une entrée assez exceptionnelle, j'espère qu'on va le voir sur des matchs entiers. Après, en numéro 10, il y a la tuile Trenduc, hein,
oui.
Trenduc qui se blesse et il en faisait un petit peu la pierre angulaire de son équipe et le titulaire est incontestable à numéro 10. Donc c'est vrai que maintenant il faut essayer le joueur, il faut chercher. Donc voilà, j'espère qu'on va trouver la solution. Sachant que maintenant, le prochain match de l'équipe de France, c'est le tournoi. C'est l'Angleterre à Twickenham. Donc
le premier match, on sera de suite dans le bain.
Vaut mieux trouver la bonne solution dès le prochain match. Ouais.
Voilà, parce qu'on ne perd pas beaucoup. On se dit c'est encourageant, mais on ne gagne pas, hein, quoi qu'il en soit. Par contre, on voit l'Irlande.
Tu parlais de l'Angleterre. L'Angleterre a gagné. Alors, je sais
contre l'Argentine.
Contre l'Argentine, 14 contre
15. Au bout de 5 minutes, il prend un carton rouge. Donc tout le match, il joue à 14 et l'Argentine est complètement atomisée. Et pourtant, l'Argentine, on sait qu'on connaît les joueurs.
Et
l'Irlande qui avait gagné l'Australie aussi.
Voilà, et puis l'Irlande qui a battu l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Alors, signalons quand même, Noves l'a dit à la fin du match, contre l'Australie, on doit gagner parce qu'il y a une erreur d'arbitrage énorme. Et c'est vrai que, je l'avoue volontiers, je ne connaissais pas cette règle. Sur l'essai spectaculaire du trois quarts australien où il est complètement en l'air et il pose le ballon sur le poteau. Et donc la règle est claire, à partir du moment où le ballon touche le poteau, tu es considéré comme une touche. Donc l'arbitre, et encore plus l'arbitre vidéo, aurait dû refuser cet essai à l'Australien. Et donc ce match contre l'Australie, on aurait dû le gagner. Voilà, c'est comme ça, ça fait partie du jeu. Mais bon, c'est vrai que ça rééquilibrerait quand même plus le bilan de Noves.
Non mais c'est vrai, donc il y a de gros espoirs à avoir donc pour l'équipe c'est de vrai. France, ça fait plaisir. Maintenant voilà, concrétiser les actions, c'est ça le point faible à corriger d'ici le tournoi. Concrétiser les actions et puis
éviter
ces fautes bêtes. Effectivement, tu le dis sur le premier essai, il y a une énorme erreur d'appréciation de Nakaitasi sur la passe au pied de
ballon aérien, ouais.
de Barrett et puis après la passe décisive de Camille Lopez.
Alors que tu as combien, 2 mètres, 3 mètres de la ligne de but, voilà, de Nouvelle-Zélande. Donc tu te dis, tiens, deuxième mi-temps, tu vas revenir, tu vas passer devant grâce à cet essai, puis tu te retrouves avec 7 points de plus dans la musette. Hein.
Exactement. Allez, la Ligue 1, on va parler, tu parles de points dans la musette, on peut parler de buts dans la musette aussi. Il y a certains clubs qui ont fait un peu n'importe quoi ce week-end.
Il y a eu des buts.
Allez, déjà 8 points entre le 3e et le 4e au niveau du classement. Nice 33, Monaco 32, Paris 32. Et là, on passe à Rennes 24, Guingamp 23, etc. etc. Est-ce qu'on a déjà le trio final de tête de ce championnat
Il y en a au moins deux. Paris et Monaco sont inaccessibles.
Tu penses que Nice peut craquer?
Nice peut craquer, à mon avis, parce que
il
y a quand même contre Bastia, un match nul, même s'ils ont eu aussi beaucoup d'occasions pour gagner ce match. Après, il faudra voir Nice. Je suis un peu circonspect, moi, sur cette équipe. On l'a vu, là, au niveau européen, au niveau de la Ligue Europa, ils ont été ridicules. Hein. Il faut pas avoir peur de le dire. Donc, je sais pas s'ils peuvent tenir. Il y a quand même pas mal d'avance, comme tu dis. À mon avis, ils joueront pas les deux premières places, ça c'est sûr.
Je crois que personne d'entre nous a pronostiqué Nice dans les trois premiers. Ça paraissait difficile aussi. Parmi les scores à retenir, bien sûr, le Monaco-Marseille et le Lyon-Paris. On va parler de ce Lyon-Paris. Beau match, hein. 2-1 Paris à l'extérieur. Très joli match. Un Lyon de ça en début de match qui s'est un peu ressaisi par la suite. Paris est plus fort, hein.
Paris est plus fort, mais on a vu que quand Lyon commençait à jouer, ça pouvait faire quand même quelque chose. Hein. Un stade vraiment qui semble magnifique, avec une ambiance vraiment des grands jours.
Exceptionnel ce stade. Hein.
Puis bon, c'est vrai que Lyon a un public aussi qui pousse, qui chante. Hein, et donc c'est vrai que dans ce stade, ça prend encore plus de valeur. Et bon, il va y avoir Lyon-Séville la semaine d'après. C'est vrai que ça, là aussi, il y aura une grosse ambiance.
Monaco 4, Marseille 0. Alors, Rudy Garcia a dit on a joué face à la meilleure équipe d'Europe, donc je pense qu'il s'emballe un peu, même si Monaco a rien à envier à beaucoup de cadors européens. Mais bon, Marseille, c'est faible. Hein.
C'est faible parce que...
Rolando s'est excusé.
Ouais, j'ai l'impression que les joueurs ont compris que sur cette équipe qui joue actuellement, s'il en reste 1, 2, et allez, je vais peut-être dire 3... Ils savent que tous, où ils vont attendre la fin de leur contrat et toucher leur chèque, ou ils vont être obligés de partir dans autre club. Donc, à mon avis, ils ont intégré ça dans leur tête. Et donc, ils se rendent compte qu'ils sont là que de passage. Et ils sont à leur niveau. Mais bon, c'est vrai qu'on a vu des joueurs complètement... un gars comme Alessandrini, franchement, on a même l'impression qu'il n'avait même plus à courir.
Mais il n'a jamais rien fait depuis qu'il est arrivé.
Quand tu le vois courir, tu as l'impression qu'il boite, qu'il est toujours blessé, mais il n'arrive pas à accélérer. Ça fait de la peine. Hein. On va rentrer Cabella. Toi, Ludo, tu as bien connu ce joueur.
C'est plus le même. Hein.
Tu le vois rentrer, mais franchement, le but qu'il rate, il est seul face au gardien. Il a juste à le placer, bon, mais il tire dessus le gardien. Et puis après, tu peux en prendre d'autres. Mais Diarra, ça a été un fantôme. Même Gomis, il a été complètement hors du coup. Fanny, il est cramé. Après, Rekik, si ça, c'est international hollandais, c'est normal qu'ils n'ont pas fait l'Euro cet été. Il y a des explications à tous les niveaux, quoi.
Oui, absolument. J'aimerais bien entendre Laurent sur ce match. Non, parce que Laurent, il parle quand Marseille gagne et quand il...
Ça fait,
quand ils perdent, tu dirais.
Non, mais il y a pas. Bon, c'est sûr que Monaco est largement au-dessus de Marseille et je languis vraiment le mercato hivernal qui est beaucoup de recrues intelligentes, des recrues intelligentes.
Si, comme
évidemment.
Dit Patrick, il faut changer,
il faut changer toute l'équipe, 75e de
l'équipe, alors, comment tu fais D'ailleurs, c'est qui les trois joueurs que tu garderais? Là, tu me dis trois joueurs, là, fais-moi rêver.
Bah, je garderais Thauvin quand même, même si il est brouillon et bon, il y a très peu de passes décisives et très peu de buts.
Le jeune
aussi.
Là au milieu qui Lopez. Est pas mal, Lopez.
Bien sûr, Maxime Lopez qui vraiment apparaît enfin comme le successeur de Nasri, le dernier vraiment formé au centre de formation qui a eu un impact dans cette équipe marseillaise, c'était
et Rolando en troisième.
Ouais, et Rolando, mais voilà. Plus
non,
comme,
pas Rolando, c'est vrai.
Ouais, non, mais
Rolando, il est nul.
Ouais, c'est... si, non, quand même.
On voit Diarra et Gomis.
Ouais, Diarra et Gomis, mais bon, il va falloir quand même.
Ouais, mais alors peut-être. Avec des chèvres,
ouais, hein, voilà.
Si
ouais.
Au bout d'un moment, peut-être. Moralement, ouais, plus, ouais,
tu n'as peut-être raison. Tu as peut-être raison. Mais bon, c'est vrai que là, franchement, quand tu les vois jouer à Monaco, même eux, ils ne te tireront pas.
Par contre, il y a une bonne nouvelle au niveau du poste de gardien. Je ne sais pas si vous avez entendu.
Mais non, mais c'est mytho, ça.
Mais
Mandanda, le retour de Mandanda.
Mandanda, bien sûr. Pose la question.
Mandanda, il ne veut pas le faire partir son entraîneur, donc il ne reviendra pas.
Non, mais.
Depuis quand les entraîneurs décident?
Mais bien sûr.
Non, mais je suis persuadé.
Quand les joueurs décident?
Non, mais je suis persuadé. Que Mandanda, bon, il joue dans un club, Crystal Palace. C'est un club qui va jamais jouer de sa vie les premiers rôles au niveau du championnat anglais. Je suis sûr que si Garcia ou McCourt l'appelle, il lui dit, bon, voilà, tu vas être le pilier de Marseille. Après, bien sûr, tu auras une reconversion au club et tu seras dans le staff aussi bien dirigeant que technique ou dans le recrutement. Ben, Mandanda, il revient sans problème début janvier.
Donc,
il revient à Marseille.
Il est parti gratuitement et tu vas le racheter 15 millions.
Il n'est pas parti gratuitement parce qu'il y a eu 2 ou 3 millions d'euros.
Tu l'as vendu 3 millions, tu le rachètes 15.
Mais non, tu ne le rachèteras pas 15. Tu le rachètes au prix, voilà, 2, 3, 4 millions.
Mais bien sûr que non, ils ne veulent pas descendre. Ils ont un bon joueur chez eux, ils vont le garder.
À mon avis, tu peux faire revenir Mandanda sans problème. Et puis dans le vestiaire, ça changera tout aussi parce que on sent que ça manque aussi de leader, mais de gars qui au moment où ils disent bon, il faut arrêter les conneries.
Bon, il y aurait une enveloppe de 75 millions d'euros, donc il y a quand même moyen de recruter 3-4 bons joueurs, quoi, enfin, à mon avis.
Je pense.
Plus quelques prêts, tu arrives à une équipe. Mm. Mais il ne faut pas se gourer.
Joueur de la Roma, là, le milieu de terrain, il ne joue plus. Comment il s'appelle?
Vainqueur.
Vainqueur.
Si, il jouait.
C'est lui qui joue.
C'est lui qui perd le ballon sur le 4e but. Il a voulu dribbler, tu as dit à 3-0.
Ouais,
il est 18 mètres, il fait une dribble. Bon,
ben, il ne sait pas s'il est gaucher ou droitier, il attaque à dribbler. Et voilà.
Et ouais, c'est ça.
Et ça fait 4 ans.
Il y a une journée de championnat demain mercredi.
Oui.
Pour Rennes va à Lorient, Gourcuff est blessé. Voilà, je tenais à le dire.
C'est une scoop, ça.
Surprise.
Et pourtant, il marquait. Il a marqué le but à la première minute, quand même.
Eh oui, mais il s'est blessé à la deuxième.
Un gros coup de cul, n'empêche, il avait tiré n'importe où, c'est pas un très jambe de vol.
Allez.
Je veux dire, bon.
On va faire un pronostic, vas-y d'abord.
Moi j'aimerais revenir sur les trois premiers du classement quand même. Parce que,
vas-y, oui, c'était la question.
Moi je ne suis pas d'accord avec Patrick, moi je vois bien Nice rester dans ce trio de tête quand même, ils ont déjà 7 points d'avance, donc c'est vrai que même s'ils ont fait un petit faux pas, ils font match nul contre Bastia ce week-end. Moi je sens que quand même c'est une équipe jeune, c'est
9
une équipe
d'avance.
C'est vrai qu'il y a un énorme écart.
Je trouve qu'il y a une dynamique dans ce club qui fait qu'ils peuvent être dans les 3 premiers.
Disons qu'à partir de jeudi, ils sont peut-être plus ils vont passer 3e.
Oui, mais ça fait toujours dans les 3 premiers, 3e.
Oui, d'accord, mais enfin ça fait que bon.
Non, mais après
premier.
Après surtout derrière 4e, tu as Rennes, Guingamp, est-ce que c'est des équipes aussi
et Bordeaux
qui vont tenir toute la saison,
ils perdent tous leurs matchs Bordeaux et
ils vont inquiéter Nice
6e.
Sans compter que Lyon gagne, fait toujours des deuxièmes parties de saison très intéressantes une fois qu'ils ont changé d'entraîneur à Noël. Donc, bon. Mais je le souhaite à Nice, n'empêche, c'est un club sympathique, un président intéressant aussi dans ses discours.
Je souhaite
se maintenir
à
ce niveau-là.
Un très bon coach.
Que je ne connaissais pas, qui était à une époque annoncé à Marseille.
À Marseille.
Et finalement, ça aurait été intéressant.
Oui.
Très intéressant.
Non, mais il faut féliciter cette équipe de Nice parce que s'ils n'étaient pas là, tu serais déjà plus qu'un mano à mano entre Monaco et PSG. Donc c'est vrai que ça met un petit piment supplémentaire.
Allez, pour les pronostics, on va changer. Au lieu de pronostiquer un gros match, on va pronostiquer, alors je m'excuse d'emblée pour ces deux clubs, sur le match le plus pourri de cette semaine, qui est Nancy qui reçoit Metz.
Ah, le derby.
Le derby. Et oui, voilà, parce que quand on est pronostiqueur, monsieur Julien.
Le derby de la Lorraine.
Il faut savoir pronostiquer tous les matchs, et c'est peut-être ça qui va te sourire. Parce que tu attends peut-être le match un peu pourrave. C'est bien pour ça. Allez, je vais t'aider. Je vais te donner les deux résultats. Nancy, très solide à Montpellier, qui allait chercher le 0-0. Et Metz, alors il y a eu un gros match à Metz, 3-3 contre Lorient, qui perdait 3-1, qui est revenu à 3 partout. Ouais. Patrick, on commence par toi. C'est à Nancy, sur le beau synthétique qui rappelle celui de Saint-Alban.
Avec
2-1 pour Nancy.
Pedretti, n'oublie pas, il y a Pedretti.
Ouais, c'est pour ça. 2-1 pour Nancy.
Et à Loudiara, ouais. 2-1 pour Nancy.
Aurélien. Je dis 1-0 pour Metz.
Ouf. Ouais. À l'extérieur sur le... Non. Ouais.
Non. Il faut tenter le gros coup, et je suis à 0 points, donc je tente tout pour le tout. Hein.
Je dis 2-0 pour Metz. Ah. Avec Mervlut Erding et Jouffre. J'aime bien le petit Jouffre qui joue à Metz.
Allez, donc je vais vous expliquer ce qui va se passer. Ça
qui
va faire...
gare d'ailleurs, Jouffre.
Oui, oui, qui jouait à Fadil avec Renaud Coad à l'époque, à Nîmes Olympique.
Excellent.
Bon, mais là, ils jouent tous les deux à Metz.
Je vais vous expliquer ce qui va se passer. Ça va faire un bon 0-0 pourri, sans occasion, dans le froid, dans le terrain gelé, synthétique. Voilà. Vous avez vu Zidane qui a le meilleur
ratio
de victoire sur un début de championnat. Hein, on n'aurait pas parié grand-chose finalement sur lui.
C'est pas sur un début de championnat, c'est depuis qu'il est en poste.
Ouais, depuis qu'il est en poste.
Ouais, depuis janvier, pardon, sur une année civile.
Depuis qu'il est en poste au Real Madrid.
Puis là, ils ont commencé à faire l'écart, puisqu'il y a 6 points d'avance. Barcelone marque le pas en ce début de championnat. Donc, ouais, félicitations au Real qui.
Et en plus, Barcelone a eu un petit coup de pouce de l'arbitre aussi, ce qui n'a rien géré. Ouais.
Mais ils ont beaucoup de coups de pouce, j'ai l'impression, Barcelone, des arbitres.
Alors, toutes
parce
les
que...
grosses équipes ont un gros coup de pouce.
Ouais, j'ai vu le match de ce week-end, Montpellier-Nancy, on n'a pas vraiment été aidés. Hein.
Oui, c'est ce que je te dis, c'est les grandes équipes.
C'est normal.
C'est normal. Ok, d'autres infos qui m'ont échappé, je crois pas, hein, on a fait le tour.
Ouais. Si, un ski.
Biathlon. Oui, ça m'a bien échappé le ski, tiens.
Non, le biathlon, là, il y a le français, un couple français là qui a gagné. Alors, je me rappelle plus son nom, là, celui qui gagne toutes les compétitions.
Fourcade et Marie Doré.
Bogdanov.
Voilà. Qui ont gagné
le relais mixte.
Le relais mixte.
Voilà. Donc ça, c'est important aussi de le mentionner.
C'était le début de la coupe de la saison de biathlon.
Ah, je regarde pas du tout. Alors, si vous avez des infos comme de ski, n'hésitez pas à les donner parce que
tu peux regarder sur l'équipe 21, donc en clair. Et sur la TNT, c'est un des rares sports gratuits.
C'est une jolie compète, le sport comme ça. Là, tu vois que c'est des vrais sportifs, les mecs.
Ouais. Et Portland est mal hein, au basket.
J'allais y venir. Ouais, Portland qui a perdu 114 à 130 contre Houston.
Belle équipe à Houston cette année aussi.
Belle équipe à Houston.
Les Clippers qui se sont fait balayer par Indiana. Ouais. Cette nuit aussi, 91 à 70.
Ouf, c'est tôt.
Et tu vas avoir le millième match NBA de Boris Diaw.
C'est quand même pas mal. Ça, c'est bien ça.
Là, mon idole.
Aujourd'hui ou demain.
NBA en plus. Bravo à lui.
Qui réussit pas trop cette année quand même. Il a changé d'équipe aussi.
Ouais, mais il a le compte bancaire qui est rempli maintenant.
Ah ouais, ça c'est
il
sûr.
Est tranquille. Plus gros transfert, je crois.
Non, c'est pas lui.
Non, c'est Gobert.
C'est qui? Ah, c'est Gobert.
Rudy Gobert.
Et après, c'est Batum.
Il joue dans la même équipe.
Les Utah Jazz. Chez les Mormons.
J'imagine que les autres là, qui ont recruté tous les meilleurs joueurs de la planète, ils sont toujours premiers.
Oui, ils sont premiers.
Les Golden State.
Mais c'était à égalité avec les Clippers qui a pris une raclée là, donc ils sont seuls en tête.
Ouais. La ville la plus propre des États-Unis, Utah.
Ah ouais.
Il n'y a pas un papier qui dépasse. C'est la rigueur des Mormons.
Ah, mais c'est normal. Ça devrait être pareil, Amanda, d'ailleurs.
Et ouais.
C'est ça, Golden State, ils sont premiers, deuxième San Antonio et troisième les Clippers. Ouais.
Ah,
la conférence Ouest.
San Antonio est passé second alors.
Ouais, oui, ouais,
ils ont gagné à l'extérieur.
C'est ça.
Charge la conférence Est qu'on puisse savoir. Ouais, avec Gasol qui arrive pas hein, toujours. Hein, il a fait 2-3 bons matchs. Ça aussi, il faudra qu'on m'explique un joueur de cette classe.
Portland est combien au classement
Attends, il a
deuxième ou troisième.
Portland, non, il doit être 8 ou 9. Ils sont 9e du coup.
9e.
Neuvième sur 15. Il faut être dans les 8 premiers pour faire les playoffs.
Oh, mon sera.
Donc oui, ça va remonter.
Oui, facile.
Ils vont jouer contre
quand les... un match player comme Lillard.
Ah, Damien Lillard, c'est fantastique.
Tu peux faire les playoffs.
Ce Damien.
Fantastique.
À l'Est, ça donne quoi, Aurélien?
Je comprends pas pourquoi il a pas encore été élu dans l'équipe type de la semaine ou meilleur joueur du mois, là, parce que... il est quand même assez énorme.
Parce qu'il est meilleur. Hein,
et d'ailleurs, tu parles de NBA, mais notre ami Papy, Christian Barthier, bien connu au volley, au man de volley Lozère.
Bien connu à 48 FM.
Voilà, aussi, donc, nous tous les exactement. Donc, il était aux États-Unis il y a 15 jours, 3 semaines ou un mois. Et il a eu la chance de voir un match de NBA à Brooklyn, les Nets, New Jersey Nets. Ouais. Je ne sais plus contre qui c'était. Et donc, il a passé une soirée d'enfer. Il s'est régalé, une ambiance vraiment magnifique. Bon, après le match, c'est
il
presque.
Il n'a pas eu la chance, c'est presque,
payé. Voilà, oui. C'est presque secondaire. Et alors, il m'a fait cette confidence qu'il était dans les places les plus hautes. Et il m'a dit j'ai vu le match parfaitement. Donc, il y a quand même, dans ces salles américaines, un confort et un accueil. Top class.
Il paraît surtout que c'est la dernière qui a été construite, ouais. Brooklyn.
Ouais. Donc, il paraît que même sur les places les moins chères, effectivement, qui sont tout en haut, on voit très bien le match.
C'est ça. Ouais. C'est ce qu'il m'a dit. Il était pensé pour
vraiment pour que toutes les places soient accessibles, qu'on voit le match. Ouais.
Alors,
et c'est un véritable show. Hein. C'est un spectacle, même en dehors du match. Hein.
C'est ce qu'il a dit.
Ouais. Conférence Est, ça donne quoi?
Alors, Conférence Est, premier Cleveland, deuxième Toronto, troisième Chicago.
Voilà, ça change pas par Chicago.
Chicago, c'est les Bulls.
C'est les Bulls.
Ah, l'année dernière, ils étaient complètement à la ramasse. C'est la Stanier, ça y va.
Et pourtant, ils ont perdu.
Ils ont changé.
Pourtant, ils comme à Marseille.
Ils ont viré Noah.
Ils ont perdu Derrick Rose et Joakim Noah, quoi, qui étaient deux pieds du
club. Ils ont viré les boulets, quoi.
Ils ont viré les boulets.
Et qui sont partis à New York. Et New York, ils sont 7e avec 50% de victoire, juste.
Ce qui est bien pour eux parce qu'ils étaient avant-dernier les autres saisons.
Ouais, c'est vrai.
Voire dernier. Ok les gars, allez, on a bien fait le tour de toute l'actu lozérienne, nationale et internationale. Allez, on se retrouve lundi prochain pour un nouvel Instant Sport. Merci les gars, ciao.
Merci bye-bye. Au revoir.
Salut.
C'est Leslie John au couloir en numéro 2. Allez Leslie, c'est parti pour Leslie John.
De la performance de Jean-Baptiste Grange.
Je ne dis rien, Super Marquet. Je ne dis rien.
La c'est France le moment, entière. C'est l'instant. Alex, la France entière.
Parker inside, pretty play from Tony Parker.
Du taxi apéro.
La qualification pour la demi-finale de la Coupe du Monde au bout du soulier.
Alors je ne regarde pas.
Allez mon petit bonhomme.
Du taxi apéro.
Allez Louis.
Allez mon petit bonhomme.